story, une histoire, une œuvre d'art. Cette semaine, la collection Shtouchkin. En ce moment, et encore jusqu'au 5 mars prochain, l'exposition Icônes de l'art moderne, la collection Shtouchkin, est présentée à la Fondation Louis Vuitton à Paris. La moitié des chefs-d'œuvre de cette collection, soit 130 tableaux en tout, prêtés spécialement par le musée Pouchkine de Moscou et le musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg, sont pour la première fois visibles ensemble en France, et c'est un véritable événement dans le monde de l'art. Rassembler cette collection mythique, c'est en effet rendre hommage à l'histoire et à ce personnage hors du commun que fut Sergueï Shtouchkine. Qui était-il vraiment et pourquoi s'est-il ainsi passionné pour les avant-gardes français au début du XXe siècle? Picasso, Monet, Van Gogh, Cézanne, Degas, Gauguin, Braque, le douanier Rousseau, Maurice Denis, Puvis de Chavannes et surtout Henri Matisse, avec qui Sergueï Shtouchkine entretint une relation particulière. Ils sont tous là, il les a tous achetés, puis ramenés en Russie à une époque où ce style de peinture moderne n'était pas du tout à la mode. Sergueï Shtouchkine est un précurseur et un visionnaire, comme M. Barnes aux États-Unis à la même époque, qui lui aussi constitua une exceptionnelle collection. Que regarder dans l'exposition? Que retenir? Il y a tellement de trésors. Il y a d'abord les délicates peintures symbolistes, car comme tout homme de goût, Sergueï Shtouchkine était insensible, aimant la contemplation et la spiritualité. Il fera d'ailleurs de son palais Troubetskoï de Moscou une galerie d'art ouverte au public dès 1908. Issu d'une riche famille de négociants en textile dont il reprit l'affaire avec brio, Sergueï Shtouchkine fait partie de la grande bourgeoisie russe qui se doit de s'intéresser à l'art. Mais en plus, il voyage beaucoup, en Asie centrale, en Afrique et en Inde, cherchant des modèles qu'il fera manufacturer en Russie, surfant sur l'engouement pour les tissus décoratifs que l'industrie rend alors accessible aux classes moyennes. Est-ce ce goût pour le motif et les couleurs qui le fera autant admirer la peinture de Matisse? Le 2 juin 1898, alors qu'il est à Paris, il accompagne son frère Piotr à la galerie Durand-Ruel, où ce dernier fait l'acquisition d'un paysage de Pissarro, la place du Théâtre français. Sergueï, lui, achètera son pendant, l'avenue de l'Opéra, chez Bernheim Jeune quelques mois plus tard. Puis, quelque temps après, il acquiert son premier impressionniste, un Monet, les Rochers de Belle-Île. Ses tableaux sont dans l'exposition. En une dizaine d'années, de 1898 à 1908, la collection comptera 13 Monets, dont la version complète du Déjeuner sur l'herbe, 8 Cézanne, dont le célèbre Mardi Gras, qui montre Pierrot et Arlequin, 16 Gauguin tahitiens que Sergueï accrochera bord à bord dans sa salle à manger, proposant une composition saisissante à la manière des iconostases orthodoxes. S'ajoutent 4 Van Gogh, 3 Renoir, 5 Degas, 4 Maurice Denis, 2 Puvis de Chavannes. La plupart sont visibles dans l'exposition qui consacre un mur entier aux Monets et une salle complète aux Gauguin. Une occasion unique de voir aujourd'hui une des plus grandes collections d'art du XXe siècle. Arrêtez-vous aussi devant le seul courbet de l'exposition, de la période suisse du peintre, absolument merveilleux, et bien sûr devant la montagne Sainte-Victoire de Cézanne. Mais il faut dire qu'à l'époque, ces peintres étaient mal aimés et peu chers. Pour preuve, les Gauguin qu'il achète très tôt, dès 1905, ce peintre un peu fou qui avait tout quitté pour partir à la recherche d'un paradis perdu à Tahiti puis aux îles Marquises, où il finira par mourir miséreux. Il achètera aussi tout le bateau lavoir, l'atelier de Picasso. Sergueï Shtouchkine tombe ainsi dans le grand bain de l'art au moment où un de ses fils est retrouvé mort à l'âge de 17 ans en 1905. À peine 2 ans plus tard, sa femme, malade et infiniment chagrinée, mourra à son tour. La tragédie est insupportable pour Sergueï, qui décide de partir pour un long voyage en Égypte qui le mène jusqu'au monastère Sainte-Catherine. On sait là-bas qu'il parla peinture avec les moines et que les paysages du désert le consolèrent un peu. Plus serein, Habité par une spiritualité qu'il ne cessera de rechercher dans l'art, Sergueï Chtouchkine quitte le monde Moïse pour se rendre à Paris, où le marchand Ambroise Vollard lui présente Léo et Gertrude Stein, collectionneurs comme lui et très proches de Matisse et Picasso. Car on ne peut parler de Chtouchkine sans parler de Matisse, à qui le collectionneur commande deux célèbres grandes toiles en 1909, la danse et la musique, pour 14 000 francs or, environ 54 000 euros, et 12 000 francs or, environ 46 000 euros. Avec la somme payée d'avance, Matisse loue une maison à Issy-les-Moulineaux et fait construire un atelier au fond du jardin, suffisamment grand pour accueillir les panneaux vierges. Il lui faudra un an et plusieurs essais pour les terminer. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est qu'à cette époque, un autre fils de Sergueï s'était donné la mort et un an plus tard, en 1910, comme une fatalité, son troisième fils se suicide à son tour. Comment survivre à une telle tragédie familiale? Sa seule raison de vivre ne semble plus être que l'art. Son goût pour la peinture des avant-gardes est si audacieux que les critiques le prennent pour un fou, autant à Paris qu'à Moscou d'ailleurs. On met sa fantaisie sur le compte du chagrin. La danse et la musique de Matisse font en effet scandale au salon d'automne de 1910 à Paris, à tel point que même Chtouchkine n'ose les ramener en Russie pour les accrocher dans son palais, avant finalement de changer d'avis. Mais petit à petit, les yeux européens et moscovites finiront par s'habituer à l'art moderne. Matisse, qui vient en Russie en 1911, est accueilli comme un grand artiste. Néanmoins, l'âge d'or de la collection prendra fin avec l'arrivée de la guerre et de la révolution russe. Car même si Lénine proclame la galerie d'art de Sergueï Chtouchkine, propriété publique de la République socialiste fédérative de Russie, considérant que par sa très grande valeur artistique, elle présente en matière d'éducation populaire un intérêt national, en 1918, Chtouchkine, alors âgé de 67 ans, s'installe en France pour fuir la Russie soviétique. Là-bas, il a laissé tous ses trésors, dont il a fait don à la ville de Moscou. Mort en 1936, il ne les reverra jamais. Le nom de Chtouchkine a été oublié pendant très longtemps. Staline, qui a vu dans ses peintures un art bourgeois, décréta l'interdiction d'exposition. Ainsi, les chefs-d'œuvre de la collection disparurent pendant longtemps des cimaises des musées et de publications des musées russes. Les revoir aujourd'hui, dans la ville même où ils ont été tous acquis et réunis en une seule collection, est une émotion incomparable. C'était la collection Chtouchkine dans Art Story, une histoire, une œuvre d'art. ¶¶